Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. On peut être le plus grand poète du monde et en même temps un salaud pervers. Charles Baudelaire, raconté par Jean Tellet, c'est dans Crénom Baudelaire, un livre qui sort chez des nouveaux éditeurs, Mialet Barreau. Bonjour Jean Tellet, ravi de vous retrouver.
Bonjour Théophile, bien content d'être là.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Raconter la vie de Charles Baudelaire. Depuis son enfance, de l'âge de 5 ans jusqu'à sa mort, à 46 ans, mais raconter Baudelaire comme si c'était une star du rock, star décadente du rock, hein, parce qu'on le découvre insupportable, dingue, cruel, carrément méchant, jamais content, pour reprendre la formule, mécontent de tout le monde, mais mécontent aussi de lui-même.
Mais oui, il disait ça, mécontent de tous et mécontent de moi. Il détestait absolument tout le monde, mais il se détestait lui-même. Et d'ailleurs, il a dit cette phrase extraordinaire, « Si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. »
Alors, on va commencer par expliquer le titre de votre livre, Jean Tellet, « Crénom Baudelaire ». Crénom, c'est la contraction de « Sacré nom de Dieu ». C'est le cri, c'est le juron qui va lancer parce que il va faire une chute après, oui. En visitant une église en Belgique.
Le 15 mars 1866, il visitait l'église Saint-Loup à Namur avec son éditeur et un jeune peintre qui s'appelait Félicien Rops. Et puis en sortant de l'église, à passer le portail, il a loupé une marche et il est tombé sur le front, et là il a dit crénom comme si on renversait par exemple une tasse de café, qu'on ferait « Oh merde !» Il est tombé sur le front en disant crénom, et pendant plus d'un an, jusqu'à sa mort, il n'a pas dit un autre mot que crénom.
Oui, il a bloqué sur ce mot.
Voilà. Et quand même, quand on a été l'Everest de la poésie, quand on a tellement inventé d'images, d'associations de mots et tout ça, finir sur un mot aussi con, c'est quand même pas de bol.
Vous racontez l'histoire d'un homme ignoble, mais dans votre livre, Jean Tellet, vous intégrez sa poésie, comme s'il fallait nous démontrer à nous qu'on pouvait être et un homme infréquentable et un poète exceptionnel.
Mais c'est exactement ça, j'avais envie que les gens suivent ces phrases, et puis de temps en temps, bam, coller un poème, et qu'ils disent « Ah, mais la vache, il écrivait ça !» Parce que c'est tellement contradictoire.
Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait passer à la détestation d'un homme, à l'admiration de ce sublime voyou. Parce que l'auteur des Fleurs du Mal se raconte à travers sa poésie aussi.
Oui, et puis à propos des Fleurs du Mal, il avait dit « Dans ce recueil, je veux mettre toute ma haine et tout mon dégoût de toute chose. » Et quand son éditeur, qui s'appelait Poulet Malassi, c'est un vrai nom, hein, et que lui a toujours appelé Coco Malperché, lui disait « Mais ça ressemblera à quoi les Fleurs du Mal ?» Il avait répondu « Ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que aussitôt le livre sorti, il a été attaqué en justice pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.
Oui, 13 poèmes sur une centaine.
Voilà, 13 sur 100, ce qui est pas mal. Et puis il a été attaqué aussi pour mise à néant des chères croyances du christianisme. Et ceci dit, il y était à l'effort de ce côté-là aussi, parce que dans un poème qui s'appelle Le reniement de Saint-Pierre, si je me souviens bien, ça démarre à peu près comme ça. « Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins ? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. » Et la fin du poème, le dernier vers, c'est « Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension, il a bien fait. » Donc, il y était allé, quoi.
Vous allez nous raconter comment vous avez écrit ce livre sur Baudelaire, comment vous avez fait, Jean Tellet, pour raconter sa vie à partir des correspondances, à partir des biographies déjà publiées, en allant faire sans doute des enquêtes dans une bibliothèque bien achalandée. Mais tout d'abord, comment vous avez découvert Baudelaire? Vous l'avez découvert au collège, au lycée, en dehors de l'école?
Adolescent, dans une école de dessin où j'étais quand j'avais 15 ans et avec mes copains, et on était tous fous dingues des Fleurs du Mal. Et puis j'avais lu beaucoup de choses sur Baudelaire, mais beaucoup d'intellectuels parlent de Baudelaire, la pensée de Baudelaire, tout ça, et je trouvais tout un peu rasoir. Et puis pendant longtemps je disais, en tout cas j'écrirai jamais sur Baudelaire parce qu'il est vraiment trop misogyne et trop désagréable. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, je vais quand même relire des vraies biographies, et puis surtout des témoignages de tous ceux qui l'avaient connu, tout ce qu'il racontait. Et je me suis dit, mais c'est une vie extrêmement romanesque et qui a jamais été racontée de la façon dont je raconte, parce que tout le monde est très sage, genre Baudelaire, on n'y touche pas, on peut pas.
Mais tout le monde connaît ses phrases en même temps.
Oui, mais je pense pas toutes. Mais c'était, moi je dis que c'était le premier punk sur Terre, rien que dans son apparence. C'était un type archi dandy. Il disait, je voudrais vivre une vie de dandy comme si je devais passer une vie devant un miroir. Et il disait, pour faire oublier aux autres qu'en fait je suis constitué de muscles, de tissus, de d'écoulement liquide et de sécrétions physiologiques. Et il se teignait les cheveux en vert, par exemple. Et puis avec un boa en plume d'autruche fuchsia autour du cou. Et donc c'était vraiment le premier punk sur Terre. Et il faisait un autre truc qui était vraiment un truc de punk et dont il a parlé dans un de ses poèmes en prose. C'est qu'il a vécu pendant les travaux d'Haussmann où on faisait donc tout Paris et tout. Et la nuit, il aimait beaucoup venir près des chantiers où il y avait toujours un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain matin à détruire des façades d'immeubles et tout. Et là, la nuit, sous la clarté du réverbère, il s'allumait un cigare. Ouais. Pour voir, pour risquer sa peau, pour connaître le plaisir de l'anxiété, pour faire le joueur, pour rien, et puis il se barrait, retourner, réécrire les Fleurs du Mal. Et pour moi, Baudelaire, c'est ça. C'est un mec qui allume un cigare près d'un tonneau de poudre. Il y a une façon de risquer sa peau, d'aller au bout du bout. Voilà.
Et pour vous, les Fleurs du Mal, j'entendais, parce que c'est quand même vraiment autour de ce recueil de poésie que vous racontez la vie de Charles Baudelaire. S'il fallait citer un vers, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite?
C'est « Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Parce que Baudelaire a renversé la table de la poésie française. Jamais personne avait écrit ça. « Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». C'est tellement moderne et c'est une image tellement forte. Tout d'un coup, il a tout foutu en l'air. L'associé de son éditeur, qui était aussi le beau-frère de Poulet Malassis, lui reprochait de ce qu'il écrivait. Il disait, mais pourquoi vous ne célébrez pas l'antique comme vos confrères? Et Baudelaire, il répondait, et où les ont-ils connus, les antiques, mes confrères? Est-ce qu'ils voient des gens dans les rues marcher avec des péplums sur le dos? À quoi la forme grecque répond-elle dans notre temps? N'avons-nous pas aujourd'hui d'autres passions, d'autres mœurs, d'autres vices à rimer? Une lettre de paysan sans orthographe est plus humaine que leur fausseté. Et c'est ça, il a tout renversé, et c'est pour ça que ça nous touche autant, quoi.
Les Fleurs du Mal, donc au centre de votre livre, Jean Tellet, pour raconter l'histoire de l'homme de Charles Baudelaire. Mais Charles Baudelaire, vous venez de le dire, il était dandy parce qu'il était aussi mondain, il était le témoin de Paris qui devenait une ville lumière. C'est le cas de le dire, hein, parce que c'était vraiment à cette période-là. Mais il a fait autre chose. Il a quand même traduit Edgar Poe. Il a été un critique d'art. Mais pour vous...
Mauvais critique d'art.
Voilà, pour vous, Baudelaire, c'est les Fleurs du Mal. Mais... Et que les Fleurs du Mal.
C'est l'auteur d'un livre.
Les Paradis Artificiels, par exemple, pour vous.
C'est pas très bien. Ouais. C'est pas très bien. Le Mangeur d'Opium, c'est pas très bien non plus. Non, c'est vraiment l'auteur d'un livre. Et un livre court, hein, sans poème. Et après, quand il y en a eu 6 qui ont été interdits, parce que sur les 13 qui ont été condamnés, il y en a 6 qui ont été interdits, mais interdits jusqu'en 1949. Rendez compte, pendant 92 ans, interdiction de lire aussi 6 poèmes de Baudelaire. Quand même terrible, ça.
La pendule sonnant minuit, ironiquement nous engage à nous rappeler quel usage nous fîmes du jour qui s'enfuit. Aujourd'hui date fatidique, vendredi 13, nous avons, malgré tout ce que nous savons, mené le train d'un hérétique. Nous avons blasphémé Jésus, des dieux le plus incontestable, comme un parasite à la table de quelque monstrueux Crésus. Nous avons, pour plaire à la brute, digne vassal des démons, insulté ce que nous aimons et flatté ce qui nous rebute. Tristé, servile, bourreau, le faible qu'à tort on méprise, saluer l'énorme bêtise, la bêtise au front de taureau, baiser la stupide matière avec grande dévotion et de la putréfaction, bénis le blafard de lumière. Enfin, nous avons pour noyer le vertige dans le délire, nous, prêtres orgueilleux de la lyre, dans la gloire et de déployer l'ivresse des choses funèbres, bu sans soif et mangé sans faim, vite soufflons la lampe afin de nous cacher dans les ténèbres.
L'examen de minuit. Vous avez entendu ça, que la beauté de voilà. Ce texte.
Qui ne figurait pas dans la version...
Dans la première version.
Dans la première version. Ouais, bon, ouais. Je crois que c'était en 1868 que ça a été rajouté.
Oui, donc c'est posthume, vu qu'il est mort en 67. Et c'est la version de... Bon, on s'en fout, mais le choix de 69.
Et c'est bien sûr la section spleen idéale, interprétée par Jean-Louis Murat.
Qu'est-ce qu'il le fait bien ? Qu'est-ce qu'il le fait bien ? Je ne connaissais pas.
Jean Tellet, vous êtes là avec nous pour nous parler de votre dernier ouvrage, Crénom Baudelaire. À la fin du livre, je ne sais toujours pas si ce personnage vous fascine ou est-ce qu'il vous fait peur.
Les deux, mais ce que j'ai ressenti moi en l'écrivant et ce qu'ont l'air de ressentir les gens qui le lisent, c'est qu'à force de frasques et tout, où vraiment on dit il est insupportable, peu à peu il devient de plus en plus bouleversant et émouvant et tout. Et c'était un type tellement hypersensitif qu'à la fin de sa vie, quand il était tellement attaqué par la syphilis, par les drogues hashish, opium, éther et tout, qu'il était arrivé à un niveau de sensibilité, mais folle, qui devait être invivable. Et il disait maintenant, un homme que je croise dans la rue, un homme qui marche derrière moi, un chien ou un enfant que je croise me donne envie de m'évanouir. Il n'était que sensibilité, mais poussé à un extrême. Ça a dû être invivable d'être Baudelaire.
On a l'impression que vous n'intervenez pas, Jean Tellet, vous racontez l'histoire de Charles Baudelaire, vous illustrez ça, bien sûr, avec sa poésie. Quand vous racontez ces frasques d'hommes, ce type qui est misogyne, a priori misogyne, Et vous racontez ce qu'il faisait subir aux femmes, et pas seulement aux prostituées, y compris à ses amantes. Cet homme-là pouvait trouver les femmes laides, rejetées par tout le monde. monde très désirable, ouais. qui leur a consacré des poèmes, ouais, ouais. et puis aussi aux femmes âgées.
Mais oui, mais exactement. Il aimait les femmes différentes des canons classiques. Et quand vous parlez des femmes âgées, mais oui, un de ses plus beaux poèmes, qu'un long poème, c'est Les Petites Vieilles, où il s'intéresse aux petites dames toutes vieillissantes qu'il appelle les Ève octogénaires. C'est d'une tendresse, ça. Et tout. Mais autrement, il était d'une cruauté totale. Et par exemple, il y a un alexandrin de lui, un alexandrin qui est absolument parfait. Il y a deux hémistiches, la césure au milieu et tout. Mais l'alexandrin, il dit de la nécessité de battre les femmes. Ce qui est complètement con. Il avait ce paradoxe.
Il voulait provoquer ?
Oui, oui, oui. Il voulait aller droit au pire, il disait. Toujours aller au pire. Et il disait aussi, j'idolâtre le mystère de la laideur. La soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspire. Et il voulait aller fouiller dans la boue et tout pour en disait je veux pétrir de la boue pour en extraire de l'or. C'est un orpailleur, Baudelaire. Il allait chercher ses attirances ailleurs. Et par exemple, il aimait les femmes laides ou très maigres. Il disait la maigreur me semble plus indécente. Les femmes maigres sont plus nues que les autres. Quelle étrange phrase.
Il aimait se faire détester.
Ah, puis, ça, il adorait ça. Il disait, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. C'est très étrange, alors que tous les artistes ont plutôt, non, logiquement, envie d'être aimés. Lui, il voulait être détesté.
Y compris avec les imprimeurs. Vous racontez ça, Jean Tellet, dans Crénom Baudelaire. Il rendait fou les imprimeurs. Ah, en oui. leur disant, oui, non, mais non, ce caractère n'est pas très bon, il est pas assez bien penché, tout
oui,
ça.
Oui, à un moment, son éditeur, il dit, mais bon, alors là, vous avez entouré un F. Qu'est-ce qu'il a, ce F? Baudelaire, il répond, il est un peu trop penché. Et l'éditeur dit, c'est normal qu'il soit penché, c'est un F italique. Il dit, oui, mais il est un petit peu trop penché. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut le redresser un petit peu. Et les deux compositeurs à Alençon, dans l'imprime, là où le livre a été imprimé, devenaient dingues. Ils les insultaient en envoyant les corrections à faire.
Après Guillaume, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, vous allez continuer à vivre, à nous faire revivre la vie des grands poètes.
Non, parce que là c'est le pompon. Là, j'ai décroché la queue du Mickey là, avec Baudelaire. Il y a pas pire, il y a pas plus grand. Sans Baudelaire, il y aurait jamais eu Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Enfin, il a tout ouvert. Non, je termine en beauté.
Crénom Baudelaire, grand succès en librairie. Et c'est le premier livre d'une nouvelle maison d'édition, les éditeurs Mialet Barreau. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler leur froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie. Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de mâts, et qui meurt sans bouger dans d'immenses effarts.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et on retrouve Auriane Jeancourt du magazine Transfuge, toujours fidèle au réveil culturel. Et ce coup de cœur pour le dernier roman d'Hervé Le Tellier, L'Anomalie, édité chez Gallimard, est un coup de cœur partagé avec le magazine Transfuge. Et on retrouve Auriane Jeancourt, toujours avec plaisir. Bonjour Auriane.
Bonjour à vous deux. Écoutez, moi j'ai aimé L'Anomalie alors que normalement je n'aurais pas dû aimer ce livre. Je vous avoue que ce genre de roman avec des présupposés, un peu de science-fiction à la Matrix, ça n'est pas tout à fait la littérature qui me plaît le plus. Mais je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve en vérité que c'est un roman sur la seconde chance, comme le dit d'ailleurs souvent Hervé Le Tellier, comment est-ce que les choses se jouent deux fois? Et ça, c'est finalement quelque chose d'extrêmement fin, c'est-à-dire comment est-ce que on rêve tous que la vie telle qu'on la vit soit une répétition pour la véritable vie telle qu'elle viendra. Et donc, cette idée du double et cette idée de la répétition qui est au cœur, cette idée en effet très dostoïevskienne du double et de la possible autre vie qui viendrait après, eh bien, c'est une idée finalement assez romantique et très présente et puissante dans l'anomalie.
Voilà, l'anomalie, bien sûr, figure dans le dernier numéro de Transfuge, même si ce numéro est assez particulier parce que cette fois, c'est un chorégraphe que vous mettez en couverture.
En effet, et j'en suis très
Mais
heureuse.
Pas n'importe lequel, il faut dire.
Pas n'importe lequel, Angelin Preljocage, qui est, comme vous le savez sans doute, le plus connu des chorégraphes français. Moi, j'étais très heureuse d'aller le rencontrer à Clermont-Ferrand alors qu'il crée le Lac des Cygnes. C'est assez inouï pour un chorégraphe contemporain. On sait qu'il a fait Hélicoptère, qu'il a fait les deux, en adaptant Stockhausen, John Cage. Enfin, c'est vraiment un ultra contemporain. Il vient du minimalisme quand même. Angelin Preljocage. Et là, tout d'un coup, il va vers le Lac des Cygnes, le grand monument de la danse classique. Et il y a des tutus blancs, il y a des tutus noirs, il y a un gentil cygne, il y a un méchant cygne. Il y a tout de cette chorégraphie de petits pas. Et pourtant, il la réinvente complètement. Et c'est de ça dont nous avons longuement parlé à Clermont-Ferrand alors qu'il le créait, eh bien c'est de cette manière finalement de se réapproprier un grand classique et de le réinventer, de le retravailler de l'intérieur. Et finalement, tous les gestes qu'ont les danseurs sont complètement neufs, sont complètement contemporains, sont très audacieux, avec la précision qui est le propre de Preljocage, mais la structure elle-même est absolument classique. Et finalement, toutes les petites filles et les petits garçons du monde retrouveront le Lac des Cygnes tel qu'il l'aime, avec ces pauvres cygnes qui disparaissent dans le conte.
Ça doit pas être évident, on sait tant de pandémie, de présenter ce genre de spectacle, non, rien de Jean-Cou.
Non, ça a été extrêmement compliqué, il nous le raconte d'ailleurs, parce que, évidemment, dans le confinement, ils n'ont pas pu danser, et ça a été atroce, il faut imaginer pour les danseurs ce que c'était le confinement, c'est-à-dire l'impossibilité de bouger, et donc ils ont dû, ces cinquantaines de danseurs qui sont sur scène, qui sont extraordinaires, eh bien, en un mois et demi, faire ce qu'ils auraient dû faire en trois mois. Et ils font preuve d'une énergie sur scène. On voit qu'il y a un bouillonnement qui est sans doute né de cette impossibilité de danser pendant trois mois.
Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, merci d'être venue.
Merci à vous.
Et à bientôt.